Eh ben c'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le groupe, s'il te plaît?
Donc, alors, Iron Bastard, c'est un groupe de punk qui s'est formé en 2013, dans les cendres, en fait, d'un groupe de reprise de Motorhead qui s'appelait No Class, qui a tourné pendant un an. En fait, du coup, on avait démarré en 2012. Puis après, on s'est mis à la composition et dans la foulée, on s'est dit, bah, quitte à faire la composition, autant changer le nom de groupe, quoi. Et ensuite, Iron Bastard a composé en 2015 son premier album qui s'appelle Boogie Woogie Violence. Ensuite, en 2016, a sorti son second album qui s'appelle Fast and Dangerous, et là on vient juste de sortir notre troisième qui s'appelle Cobra Kadabra, et qui est sorti le 4 avril.
D'accord, et donc c'est exactement, vous étiez tous déjà le Power Trio entre le groupe de reprise de Motorhead et Iron Bastard?
Ouais, c'est ça, ouais, c'est, le line-up n'a pas changé, ouais.
D'accord. Y a une histoire particulière autour du nom?
Autour du nom, bah oui, bah, dans le sens en fait. Bastard, en fait, ça vient surtout de notre éclectisme musical, en fait, qu'on essaie d'apporter dans nos morceaux, dans nos compositions, quoi. Et Iron, le fait que ce soit quelque chose qu'on affirme et qu'on revendique dur comme fer, quoi, aussi. Et tout ça lié, on va dire, aussi par un aspect très amical aussi de la chose, quoi. Donc voilà.
D'accord.
Et c'est que Iron Bastard correspondait bien à cette image-là et à cette symbolique, on va dire, ça symbolise bien, on va dire, ce que j'ai. Ce descriptif du groupe, quoi.
Et il vous semblait aussi avoir un attachement particulier à la figure du serpent, il y a une raison particulière?
Bah pareil, on aime beaucoup le serpent, on va dire, à cause de son poison, en fait, qui répand, on va dire, quoi, et son poison qui peut être le rock'n'roll, par exemple, quoi.
Ok. Finalement, est-ce que tu peux aussi nous présenter ton parcours artistique avant l'aventure Iron Bastard?
Bah moi personnellement j'ai toujours écouté beaucoup de blues et de country en fait à la base, et j'ai commencé la guitare avec ça, puis en parallèle aussi en bossant un peu du Motorhead, des genres de choses, quoi. Et au fur et à mesure j'ai commencé à pencher vers le heavy metal, puis ensuite je me suis penché, j'ai fait la MAI aussi en 2014. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pu découvrir aussi des styles de musique comme la fusion, le jazz, par exemple, ce qui a permis aussi d'influencer, on va dire, indirectement aussi les motifs musicaux du groupe, quoi. Et pour au final me retrouver, on va dire, juste dans un seul projet, celui qui est Iron Bastard, quoi.
Le choix de l'instrument, il y a eu un événement particulier que tu as pu choisir, la guitare, ou ça aurait pu être la basse ou la batterie ou autre chose?
Non, c'est vraiment parce que j'aimais vraiment ça, en fait, depuis un moment, quoi, et du coup, j'ai persévéré là-dedans, quoi.
Et au niveau des guitaristes, t'as des références, t'as des... Ouais, non, pour dire, t'as des musiciens un peu références pour toi?
Ouais, bah, moi, je suis un gros fan de Van Halen et de Richie Blackmore, par exemple, quoi, de Jet. Donc voilà, ce sont mes trois guitaristes phares, si tu veux, quoi.
D'accord, t'as pas choisi le plus simple, techniquement?
Non, c'est ça, ouais. Malheureusement, j'aurais pu choisir peut-être les trucs plus proches du punk, on va dire, quoi. Mais au final, j'ai préféré m'attaquer à des choses plus difficiles directement, quoi.
D'accord. Finalement, tous les trois, vous êtes retrouvés. Donc, tu disais, bon, il y avait un amour pour, pour la musique de Motorhead, mais ça a été ça le lien, ou comment?
Ouais, c'était principalement en fait Motorhead qui nous a réunis tous les trois, ouais. Après, au fur et à mesure de l'avancée du groupe, quoi, à ce moment-là, on a commencé à diversifier nos influences, mais la base musicale et ce qui nous a réunis musicalement, c'était purement Motorhead, quoi.
Ok. Si on revient un peu en arrière sur la période Fast and Dangerous en 2016,
ouais.
Est-ce que pour toi, il y a un souvenir ou un événement particulier qui, quand tu y repenses dans ta mémoire, synthétiserait cette période-là, Fast and Dangerous?
Bah c'est vraiment, on va dire, la fois où on a joué sur le Metal Corner du Hellfest, quoi, dans le sens où c'était à peu près l'apogée, on va dire, de nos dates, quoi, suite à la sortie de cet album-là, quoi.
Et
en termes de ressenti, c'est celui... Ouais, tu m'entends?
Ouais, vas-y.
Ouais, et donc en termes de ressenti émotionnel, c'est celui qui m'a le fait plus vibrer, en quelque sorte, quoi, mais... en termes d'événements, je parle, En termes d'événements, quand je dis événements, c'est concert, quoi. Après, il y a aussi tout l'enregistrement de Fast and Dangerous, qui était vachement intéressant, quoi, où par exemple, on a pu exploiter, c'est la première fois qu'on exploitait d'autres motifs musicaux, et qu'on développait la musique un peu différemment que ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire dans un registre rock'n'roll à la Motorhead, quoi, où on a commencé à apporter d'autres éléments, on va dire, qui provenant d'autres styles de musique, quoi.
Parce que finalement, un peu de l'extérieur, on se dit, quand on est un jeune groupe qui a quelques années d'existence, qu'on se lance et que relativement rapidement, au bout de quelques années, on arrive déjà à se produire autour du Hellfest, c'est un premier objectif. Je suppose que c'était quand même une sacrée opportunité. Comment, finalement, comment ça s'est fait?
Ouais, bah carrément, ouais, c'est terrible, quoi. Enfin, dans le sens où on a trouvé ça génial, quoi. C'était un peu un rêve qui se réalisait parce que dans le sens où moi j'avais déjà participé au Hellfest en tant que spectateur, mais jamais en tant qu'acteur, quoi. Et d'un seul coup, te retrouver devant une scène avec un public de 3000 personnes, ouais, ça fout un sacré coup, quoi. Et c'est juste génial, quoi.
Et c'est vous qui avez fait la démarche? On est venu vous chercher? Comment ça s'est passé?
On est venu le chercher, on avait le plan en fait sous la main, puis on nous a proposé de contacter en fait directement le programmateur, et au final il nous avait dit que enfin, pendant 6 mois on était dans l'attente de son retour, quoi, et au final il a validé notre présence sur le Metal Corner, et à ce moment là c'était parti, quoi.
D'accord. Et finalement, en montant sur scène, la réaction du public, vous avez été surpris de certains, je sais pas, de la réaction, ou est-ce que les gens vous connaissaient, ou...
Il y avait une partie il y avait une minorité qui nous connaissait, dans le sens où c'était des potes qui étaient là sur place, quoi, et quelques personnes qui nous avaient déjà vus aux différents concerts qu'on a pu donner précédemment, quoi. Mais par contre, le public a été, m'avait l'air, en tout cas, agréablement surpris, dans le sens où, quand tu vois tout le monde en train de kiffer, secouer la tête, et que ça part en pouls, et tout, tu dis, ouais, c'est cool, t'as fait le job, quoi, c'est que ça a plu, quoi, c'est sympa. Ouais.
Franchement, avant de monter sur scène, vous étiez en gros stress, ou vous avez pu gérer zen?
Ouais, on était assez stressé, quoi. C'est la première fois que je montais sur un truc comme ça, mais après on a vite relativisé parce qu'au final tu te concentres sur ce que t'as à faire, tu te mets en mode automatique et c'est parti pour 45 minutes, quoi, de pur plaisir à jouer et de complicité avec un public de 3000 personnes, quoi. Du coup c'est super cool, quoi. Tu relativises assez vite, quoi, et tu prends vite plaisir, on va dire, quoi.
Et est-ce que vous avez pu après, juste après le concert au Hellfest, est-ce que vous avez pu commencer à récolter les fruits, je sais pas, avoir des ventes augmentées, des connexions sur les réseaux sociaux, ou...
Non, ça malheureusement en fait on n'a pas trop eu de retour par rapport à ce concert là, quoi. Ça nous a offert une certaine visibilité directe, on va dire, sur le site du Hellfest, mais après on n'a pas eu énormément de répercussions par rapport à ce concert là, quoi. Mais globalement ça reste quand même un grand souvenir, quoi.
Ok, bah super. Au niveau des sorties récentes, tu peux nous dire un mot sur le Keep It Fast?
Donc Keep It Fast, en fait, c'est un live qu'on a enregistré au Unicorn à Camden, à Londres, du coup. Et en fait, il s'est avéré qu'on ne savait pas forcément que notre live avait été enregistré, et l'ingé son en fait avait enregistré du coup tout le live, et il est venu à la fin du concert nous proposant de nous vendre 20 balles, en fait. Et du coup en fait on a fait vas-y, on prend les pistes pour voir, et en rentrant on l'a écouté, on a fait ouais, en fait le mec il a vraiment fait du bon taf, quoi. Et on s'est dit bah c'est quoi, on va l'emmener avec nous en France, on va remixer tout ça, et après on s'est dit bah c'est quoi, autant sortir un live avec, parce que c'est très bien, ouais, ça a été les prix sont super bonnes et tout, quoi. Et on s'est dit ça serait dommage en fait de pas en faire profiter les gens qui nous suivent, quoi.
Ah oui, donc c'était pas du tout préparé?
Non, c'était pas du tout préparé, non.
Ouais, c'est peut-être pas plus mal, vous étiez plus naturel.
Oui, c'est ça, oui. Après, ça nous empêche pas d'être naturel quand on sait qu'on est enregistré aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus spontané et instinctif que ce que tu peux avoir sur un live qui est déjà enregistré, quoi.
D'accord. Si on vient un peu, voilà, prendre un peu de recul sur le groupe, finalement, comment ça se passe? Quel est le processus habituel de création d'un titre au sein d'Iron Bastards?
Il n'y a pas de procédure habituelle, hein. C'est assez aléatoire et assez, je dirais pas hasardeux, mais on s'adapte en fond. Hein. Ça dépend de pas mal de critères et de facteurs, quoi, mais on va dire que la plupart du temps, les morceaux sont composés en jam, dans une répétition, quoi. Mais après, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai une espèce de banque de riffs, tu vois, dans laquelle j'enregistre différents licks, différents phrasés, des thèmes, par exemple, ou des trucs comme ça, après que je fais partager aux autres membres du groupe, quoi, et avec lesquels on va, peaufiner tout ça, quoi, et travailler tout ça, mais toujours dans l'optique de faire une jam, quoi. Et après seulement, on retravaille, on a réarrangé les morceaux, et ainsi de suite. Et on développe le morceau une fois la structure composée, quoi.
D'accord. Ça veut dire que vous enregistrez toutes vos jams, ou vous vous arrêtez quand il y a un truc qui a l'air de cliquer?
Ah non, en fait on n'enregistre rien du tout. Comme dit, le seul truc que j'enregistre, moi, c'est mes banques de riffs, quoi. Enfin, c'est mes riffs, quoi. Et après seulement, on jam et on tout est de tête, quoi.
D'accord, ok. Donc, voilà, ouais. Enfin, l'un de vous arrive avec une idée, vous voyez si ça fonctionne entre vous, ou vous passez à la suivante, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. On passe à la suivante où on commence à développer à peu près tout le concept et toute la structure musicale, quoi. Mais après, généralement, on sait à peu près vers quoi on se dirige et l'orientation que va prendre le morceau, quoi.
D'accord. Finalement, sur le Cobra Kadabra, il apparaît 11 titres. Vous n'avez finalisé que 11 titres ou vous en aviez plus et puis après vous avez fait un choix?
Non, on avait 11 titres. On avait 11 titres en fait, mais c'est pour ça en fait qu'on a mis un peu plus de temps, on va dire, à sortir cet album-là, parce qu'on s'est permis un peu plus de les complexifier, de les développer, de les enrichir. Et du coup, à ce moment-là, on les a vraiment bien travaillés, quoi. Je veux dire, on avait déjà certains textes préparés précédemment, quoi. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal d'à chaque fois, on va dire, adapter ces textes-là, de bien les travailler, et aussi en parallèle développer l'aspect musical, quoi. Mais je veux dire, on n'avait rien de plus à jeter, si je puis dire, quoi.
D'accord. Et sur Cobra Kadabra, il y a des éléments qui avaient été composés à l'époque de Fast and Dangerous, ou c'est du tout neuf?
Non, c'était du tout neuf, quoi.
D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur les sessions d'enregistrement en studio?
Donc en fait, c'est des prises live. En fait, on était accompagné de nos deux ingé-sons, quoi. Enfin, généralement, c'est les deux personnes qui nous accompagnent de façon individuelle à chaque fois, hein, sur les dates, quoi. Et en fait, on a réuni les deux ingé-sons, quoi. Il y en a un qui s'est plus occupé de la partie prise de son, mixage et mastering de l'album. Et l'autre qui s'est occupé principalement de la partie technique, location du matériel, choix du lieu et ainsi de suite, quoi.
Mais c'est
de façon assez autoproduite, quoi.
Ouais, mais c'est tout fait à la maison ou vous allez dans un studio professionnel?
Bah, c'est pas un studio professionnel, c'est un studio qu'on a monté en fait nous-mêmes.
D'accord.
Via en fait, du matériel qu'on a pu obtenir via un de nos ingé-sons, quoi.
Ok. Est-ce que le risque, c'est pas justement de, entre guillemets, de prendre du temps et donc de jamais, de jamais finir, quoi? Vous étiez fixé un calendrier, enfin tu vois, une deadline?
Bah en fait oui, c'est ça, mais après le but c'était de pousser en fait, c'était anticiper l'enregistrement et qu'on a que les morceaux sur le fond des lois, quoi.
D'accord. Et donc ça vous a pris combien de temps là, si tu prends tout le process d'enregistrement?
Bah le processus d'enregistrement nous a duré un mois en gros, quoi. La base en fait a été enregistrée en live directement en studio. Donc en fait basse batterie, guitare basse batterie. Et après le reste en fait ce sont que des arrangements, il y a les solos et le chant et l'harmonica, enfin un morceau, juste pour un morceau, qui ont été enregistrés en parallèle à chaque fois de façon individuelle, quoi. Mais sinon la base a été enregistrée en une journée ensemble, quoi.
Ah oui, donc en une journée vous avez tout mis en boîte?
Ouais, c'est ça.
Eh ben dis donc. Au niveau un élément important également sur l'album, c'est le visuel. Donc on disait il y a toujours la figure du serpent. Donc là c'est un visuel qui a été fait par un certain Vincent.
Ouais, Vincent, ouais, c'est son blaze en quelque sorte, parce qu'il est tatoueur aussi à côté.
Ouais, puis je vois qu'il fait de l'harmonica aussi.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, en fait c'est un peu c'est notre harmoniciste, c'est notre designer, c'est notre roadie et notre driver aussi, quoi. Enfin c'est un peu le quatrième membre qui fait un peu tout, qui nous file un sacré coup de main, quoi, et qui est très talentueux aussi.
D'accord. C'est assez différent que graphisme, que ne serait-ce que sur le précédent. Donc qu'est-ce que vous aviez comme idée à l'origine sur qu'est-ce que vous vouliez voir sur la pochette?
Bah en fait, comme dit, en fait, on a voulu un peu plus développer, vu que déjà l'album, vu que ça s'appelle Cobra Kadabra, tu vois, on a voulu exploiter ce potentiel un peu ésotérique et mystique, on va dire, de cette notion-là, quoi. Et après, on a donné tous ces éléments-là, on a fait un espèce de melting pot, enfin un espèce de brainstorming plutôt, en fait, de toutes les idées qu'il pourrait y avoir sur la pochette, tu vois, qu'on a redonné à Vincent. Et Vincent, par la suite, lui, a directement développé toutes ces idées-là, quoi.
D'accord. Et il a fait aussi tout le livret ou?
Ouais, c'est ça, il s'est occupé de tout le design et tout, qu'il a travaillé. En fait, il a travaillé avec sa copine qui elle a fait toute la partie graphisme, quoi.
D'accord, d'accord. Tu disais, là, vous avez pris un peu plus de temps pour cet album-là par rapport au précédent. T'estimes que voilà, votre rythme naturel, c'est quoi, 2-3 ans, ou vous pourriez aller plus vite ou...
Non, ça dépend. Enfin, ça dépend en fait notre, de notre vitesse aussi de composition et d'inspiration, quoi. Et du coup, c'est vrai que là. On a mis un peu plus de temps que d'habitude parce que justement on a été vachement pris, on va dire, par le nombre de dates et le nombre de concerts qu'on a fait, quoi. Et du coup, et aussi la complexité et l'enrichissement aussi des motifs musicaux qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir avant, quoi. Vouloir vraiment faire des morceaux un peu plus complexes, on va dire, que ce qu'on pouvait faire développer et composer avant, quoi.
D'accord, non, je comprends. Toujours dans le domaine du visuel, donc vous avez fait sortir un clip vidéo pour Days of Rage.
Ouais.
Là aussi, tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait ?
Bah, comme dit, en fait, l'actualité s'y pressait, quoi. Hein, je veux dire, il y avait énormément de mouvements contestataires à ce moment-là en France. Et du coup, en fait, on a voulu faire un morceau par rapport à ça, quoi. Et de façon purement analyste, hein, pas du tout engagé. Enfin, il y a quand même une certaine forme d'engagement en faisant ça, quoi. Mais dans le sens où on a voulu un peu montrer que qu'à chaque époque, il y a ces mouvements de contestation, quoi.
Mais la création même du clip vidéo.
La création même du clip vidéo, en fait, elle a été faite avec un pote, en fait, tout simplement, quoi, avec lequel le thème a vachement parlé, en fait, quoi.
D'accord. Vous avez d'autres projets là dans les tuyaux pour côté vidéo ?
Bah, comme dit, on vient d'en sortir un hier.
Ah, ok, d'accord.
On vient de sortir un clip sur c'est plutôt une vidéo animée en fait sur le titre Cobra Kadabra.
D'accord.
En fait, qui développe plus vraiment la pochette d'album, quoi, qui est vraiment axée là-dessus, quoi. Donc c'est de la vidéo animée sur notre pochette d'album, et on s'est dit que ce serait dommage en fait de pas exploiter le potentiel de la pochette, quoi, pour en faire une vidéo, quoi. Et pourquoi pas justement sortir un nouveau clip sur un nouveau morceau, peut-être en septembre. On se tâte encore sur quel morceau le faire, quoi, mais on aura bien faire un nouveau truc, effectivement, ouais. Beaucoup plus standardisé, quoi.
Ouais, non, après, moi j'avais vu le premier qui est très sympa, le deuxième, je vais découvrir ça ce soir en regardant. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les semaines ou les mois qui viennent ?
Bah, que tous les concerts se passent bien, qu'il n'y ait pas de problème, et surtout un public réceptif à ce nouvel album, quoi. Je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Et surtout, énormément d'éclats, quoi, sur la route et pendant les concerts, quoi.
Donc vous avez déjà, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de dates programmées ?
Ouais, c'est ça, à peu près, ouais.
assez éclectique au niveau des pays. Vous avez
principalement français, Allemagne, quoi.
Ouais. Ça se travaille comment, au réseau ? Faut proposer. Il faut essayer de pour les dates. Vous avez une technique particulière ou une stratégie particulière ?
Le booking, en fait, tout simplement, c'est David, le chanteur massif, du coup, qui passe son temps à envoyer des mails et à harceler les organisateurs, quoi. C'est un peu ça.
Ok. Je m'étais toujours demandé, donc vous êtes de Strasbourg, finalement, la proximité de la Suisse et de l'Allemagne, c'est un avantage ou un inconvénient ?
Bah, c'est plutôt un avantage, ouais. C'est plutôt un avantage dans le sens où c'est des pays, on va dire, qu'en termes de musique rock et hard rock, sont beaucoup plus développés que la France, quoi. Même dans la culture musicale est beaucoup plus développée là-bas qu'en France. Et ça, je parle en termes de cause, dans le sens où c'est une remarque que j'ai pu me faire et que j'ai pu constater aussi directement sur le terrain, quoi.
D'accord. Mais le fait de, enfin, après, vous êtes sur un secteur musical assez porteur, est-ce que Motorhead a toujours bien marché en Allemagne, mais le fait de voilà d'arriver de l'autre côté du Rhin, ça dérange personne ?
Non, du tout, non.
Non, c'est plutôt ok. Et justement, comment vous voyez un peu la scène metal hard rock française vue de Strasbourg ?
Je pense qu'on la voit comme tout le monde, enfin je sais pas trop. Vu de Strasbourg, écoute, on la trouve plutôt cool, hein. C'est super bien de voir qu'il y a des groupes français aussi qui arrivent à se faire connaître et à pouvoir diffuser leur musique malgré le manque de structure, on va dire, potentielle en France, quoi.
Et au niveau des groupes localement, en Alsace ou enfin dans le Bas-Rhin ?
Bah, au niveau des groupes, c'est assez cool, parce que justement, on va dire que c'est vrai qu'à Strasbourg, il manque seulement, encore une fois, de structure musicale, quoi, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a une grosse scène metal, rock, stoner et punk aussi qui se développe de plus en plus, quoi, et ça peut que. Ça peut que être cool, quoi.
Ok. Pour terminer, on a toujours des petites questions plus sur. Plus sur les goûts musicaux de notre interviewé. Donc, je vais juste te poser quelques questions sur tes goûts.
Ouais.
Ta chanson préférée ?
Ma chanson préférée. Oula, ça c'est une question assez difficile quand même.
Hein. Ben c'est bien.
Ma chanson préférée. Je dirais que c'est Rhythm of the Ancient Mariner de Iron Maiden.
D'accord, c'est. Tu te souviens du premier album rock que t'as acheté ?
Ouais, c'était So Space the Motorhead.
Et le dernier ?
Le dernier, qu'est-ce que c'était ? Mais moi, le dernier CD que j'ai acheté, je crois qu'il me semble que c'était un album de UFO.
Mmh.
Là, mais je sais plus lequel. Bah non, parce que j'en ai plusieurs, je sais plus lequel. Écoute, je sais plus du tout, mais en tout cas, c'est un album de UFO sûr.
D'accord. Et juste une dernière question. Finalement, tout ce qui est musique dématérialisée, Spotify, Deezer, etc., vous voyez ça comme une chance ou comme une malédiction ?
Ah, comme une chance, hein. C'est super cool de pouvoir diffuser sa musique actuellement à un maximum de personnes. Ça permet beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de partage à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ça, c'est carrément cool.
Ouais, mais vous touchez que dalle.
Bah, ça, c'est pas grave. Hein.
Ok, c'était pour savoir. Ok, non, super, mais. Pas de problème, c'est pour ça que c'est toujours intéressant que j'essaie de poser la question parce que j'arrive pas à me faire un avis moi donc.
Ouais, bah en fait, moi comme dit, moi je suis pour en fait la diffusion générale de la musique, quoi. J'estime que le paiement pour moi il se vient après une prestation, pas forcément sur un fichier audio, quoi.
Ouais, mais les mecs ils se font du fric sur ton travail, quoi.
Ah, bah si les mecs ça après, ça c'est encore un autre débat, bien sûr. Là je suis contre le fait que y ait. Enfin, ça c'est quelque chose avec lequel je suis pas favorable. Mais si ça permet encore une fois une bonne diffusion de ta musique et un vrai partage, moi à ce moment-là je suis carrément pour, quoi. Mais c'est vrai que l'aspect lucratif de que ce soit d'autres personnes qui prennent ton argent, ouais, là c'est clair, quoi. Mais après ça tu peux rien faire avec, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà un énorme pas en avant de pouvoir diffuser ta musique comme ça de façon. Beaucoup plus facile, quoi, que ça a pu l'être à une époque, quoi.
Ok, bah super, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci à toi.
Et puis à bientôt et tous mes voeux.
À très bientôt, en tout cas, passe une bonne fin de journée.
Toi aussi, salut.
Merci, ciao.
Ciao.